l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité de la semaine. On a parlé des riches, du beurre et des traîtres. Alors d'abord les riches, le président des riches, c'est la petite musique qui est en train de s'installer de façon lancinante. Emmanuel Macron serait le président des riches. La preuve, la suppression de l'ISF. La preuve encore, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. 1% des ménages profiteront de 44% du gain lié à ce prélèvement forfaitaire unique. En moyenne, 580 000 euros de gain par an pour ce petit 1%-là de ménage. Et puis la preuve enfin, la hausse de la CSG, ça tout le monde paiera, mais évidemment, quand on est modeste ou pauvre, on le sent passer. Et d'ailleurs, à ce propos, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Les banques ont encore été pointées du doigt cette semaine pour les frais bancaires, qui pénalisent particulièrement les personnes déjà en difficulté financière. Pour les plus pauvres, les frais bancaires ont été multipliés par presque 10 par rapport à l'ensemble des clients, selon l'association 60 millions de consommateurs. 300 euros de frais par an en moyenne, contre 8 à 9 fois moins pour les clients lambda moyens. Pour revenir aux soupçons initiales, sondage après sondage, on constate que cette idée de Macron président des riches progresse dans l'opinion. Ainsi, plus de 80% des Français estiment que les grandes fortunes et les chefs d'entreprise sont les grands gagnants de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Sondage Odoxa pour l'Express tombé cette semaine. Le linge sale qu'on lave en famille, ça a été le deuxième feuilleton de la semaine chez les Républicains, avec l'exclusion des constructifs parce qu'ils ont rejoint Emmanuel Macron. Alors en fait, ça fait peu de monde, hein. Ça fait beaucoup de bruit puisque le parti, faute de quorum, a échoué à les exclure, mais ce sera fait mardi prochain. Ils critiquent les Républicains matin, midi et soir, refusent de partir, on les vire, ils s'accrochent comme des moules au rocher, commente Nadine Morano, qui les désigne comme des traîtres. Alors on parle seulement de 5 personnes, les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, les députés Franck Riester et Thierry Soler et le Premier ministre. Il y a d'une part, d'un côté, les arguments des tenant de l'exclusion, on ne peut pas être à la fois au gouvernement et dans le premier parti d'opposition. Ça se tient. En face, les constructifs avancent d'autres arguments. Si le quorum n'a pas été atteint pour nous exclure, c'est que de toute évidence, le parti n'arrive pas à rassembler une majorité de gens pour nous exclure, déclare Thierry Soler, qui plaide aussi, comme leur nom l'indique, pour un esprit constructif. Le premier ministre, les Républicains Édouard Philippe, qui fait les réformes dont les Républicains et ses électeurs rêvaient. Et finalement, on n'aura pas 4, mais 3 candidats au siège du président de parti Les Républicains, puisque la candidature de Daniel Fasquel a été invalidée cette semaine, faute de parrainage suffisant. On aura donc l'archi-favori Laurent Wauquiez et deux autres qui auront plus de place pour se faire connaître, pour le coup d'après, Florence Portelli et Maëlle Decalant. Enfin, cette semaine, on a aussi parlé du beurre. Y en aura-t-il dans les bûches à Noël? Pas sûr. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a affirmé que la pénurie qui commence à se faire sentir en France ne va pas durer, car la production de lait va remonter. Les cours mondiaux ont flambé sous l'effet de la pénurie, passant de 2500 euros la tonne de beurre au printemps 2016 à 7000 euros cet été. Mais en fait, il n'y a pas de pénurie, accusent les agriculteurs. Si les rayons sont vides, c'est parce que les industriels font le choix de vendre à l'étranger les plaquettes de beurre plutôt qu'en France. Et pourquoi font-ils ce choix-là? Parce qu'en France, la grande distribution ne veut pas répercuter les hausses de prix sur le consommateur. Le coupable de cette pénurie de beurre dans les supermarchés serait donc le supermarché lui-même. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Passez un excellent week-end à notre écoute.
La météo de votre région sur RVE.
Bonjour à tous et bon dimanche. Alors la météo pour votre journée, il faut composer avec un peu de pluie et quelques éclaircies. Côté température, on va atteindre les 16 degrés tout de suite. C'est votre émission phare du dimanche. C'est Trivin Sport présenté par Philippe Carnu sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Trivin Sport avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 29 octobre. Alors, nous sommes revenus à l'heure d'hiver, hein. Il est un peu plus de 10h ce matin, et donc vous allez pouvoir écouter votre émission sportive préférée en ayant donc gagné une petite heure de sommeil. Alors, on devait parler cyclisme avec Jean-Michel Richefort, vice-président de la Fédération française, qui devait être avec nous ce matin. Il a eu un gros pépin de santé, on nous souhaite un prompt rétablissement, et on a donc au pied levé une nouvelle fois donc des commandes. Notre principal invité, et on est ravis en tout cas d'accueillir ce matin la section tennis de table de Saint-Arnoult en Yvelines, Robert Fureur, bonjour.
Bonjour Philippe, eh bien, écoute, merci à toi de nous accueillir, c'est sympa.
Et... c'est sympa d'avoir au pied levé quand même donc répondu présent à l'appel.
Oh bah écoute, quand on peut, il n'y a pas de raison de se rendre service mutuellement. Hein. De toute façon, et puis en plus de parler du tennis de table de Saint-Arnoult, bah, pour nous c'est un régal.
Oui, en tout cas c'était prévu de vous avoir cette année sur votre tablette, Robert, parce que bah, mine de rien, c'est encore, il se passe encore plein de choses au sein de votre activité. On a également le président Guy Hersemel, que je salue, bonjour Guy. J'allais dire, non, c'est pas le nouveau président, c'est la première fois que je vous ai à ce micro, en tout cas.
Oui, c'est la première fois, bonjour à tous. Ouais. Donc, pour moi, c'est la première fois que je parle à la radio et que je vais représenter comme ça, de vive voix et en direct, la section tennis de table de Saint-Arnoult.
Alors, d'abord, comment on en arrive à la présence du tennis de table de Saint-Arnoult? Le tennis de table, c'est une vieille passion, c'est votre sport depuis des années et des années?
Alors oui, j'ai commencé le tennis de table chez mes parents, enfin j'avais à peine 20 ans, et donc j'en ai fait quelques années dans la Sarthe, j'ai poursuivi mes études à Brest, et j'ai fait du tennis de table aussi à Brest. J'ai arrêté pendant quelques années, puis donc je suis venu habiter à Saint-Arnoult, où mon fils s'est mis à jouer au tennis de table, et sur l'invitation de Robert Führer, j'ai commencé à participer aux activités, je me suis remis à jouer, et puis finalement je suis arrivé... président de la section.
Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était inscrit qu'un jour ou l'autre, vous finiriez président?
Je ne pense pas, non. Je pense que c'est plus pour aider l'équipe et pour participer à la vie de la section et pour faire en sorte que ça se poursuive après donc mon fils qui a terminé le tennis de table pour les autres enfants de la section.
Oui. C'est une fonction passionnante, excitante, prenante, stressante?
Oh, je pense que par rapport au travail qu'on peut effectuer, c'est pas forcément plus difficile, mais c'est ça occupe du temps, je dirais, en côté de notre travail. Donc moi, je faisais beaucoup d'heures à une époque. Maintenant, j'ai un petit peu plus de temps libre et je peux participer plus à la vie de la section. Mm-hmm. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus?
En tout cas, c'est le quotidien de tous les jours. C'est le quotidien de tous les jours.
Oui, c'est le quotidien de tous les jours et c'est des activités quelquefois complètement différentes de ce qu'on fait au travail. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que on rencontre beaucoup de jeunes, ce qu'on ne rencontre pas au travail. On rencontre aussi des entraîneurs et des gens qui participent à la vie de la section. Et c'est des bénévoles aussi, c'est un fonctionnement différent du travail. Donc c'est complètement, c'est une vie différente, mais c'est très très intéressant aussi.
Bon, il n'y a pas eu de conflit, justement, comme on disait, la vie de tous les jours, il n'y a pas eu encore de gros conflits à arbitrer, des choix parfois, même un peu drastiques à faire?
Il y a toujours, je crois qu'il y a toujours des choix, plus ou moins difficiles, plus ou moins importants. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Je crois que le plus difficile, c'est de libérer suffisamment de temps pour participer à la vie de la section.
Mais parce qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être responsable d'association, qu'aujourd'hui, le bénévolat, c'est compliqué, que les gens sont des consommateurs. Vous ressentez ça aussi, vous, au sein de votre section?
Oui, ça se ressent bien au sein de la section. Je pense que c'est encore plus flagrant au niveau de l'USSA vu la taille. Nous, on a la chance d'avoir quelques participants passionnés et d'avoir un bureau bien étoffé. Mais c'est pas le cas pour toutes les sections de l'USSA.
Mmh. Robert, vous qui êtes depuis plus d'une trentaine d'années dans ce club, vous avez connu beaucoup de présents. Guy, là, c'est combien de présents que vous connaissez?
Alors après moi, c'est le deuxième.
D'accord.
Avant, il y a eu un président en 73, Gérard Plic, pour pas le nommer. Et j'ai pris moi la présidence en 77, que j'ai quitté en 2012. Et Guy Morinière a fait 4 ans,
oui.
Et Guy a pris la suite il y a 3 ans maintenant.
Oui, c'est ça. Voilà. Alors vous êtes l'homme à tout faire un peu du club de Saint-Arnoult, tout le monde vous connaît sur le tennis de table. C'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 30 ans?
Je suis un petit peu sorti moi des responsabilités, donc Guy a pris la suite. Je suis toujours au club parce que c'est ma passion. Et puis j'essaye d'apporter mes connaissances et puis mon savoir depuis tant d'années. Mais chez les joueurs, chez les jeunes, je remarque pas une grosse différence. On a les bénévoles qu'on a. Dans le temps, c'était pas plus facile d'avoir des bénévoles que maintenant. Mais oui, c'est toujours le problème.
Et la gestion des hommes?
à la gestion des hommes, c'est pour moi, ça a été un apprentissage. Mmh. Mais c'est aussi passionnant parce que on a des gens très différents et il faut faire avec pour diriger une section. Mmh. Sinon, bah, les gamins, c'est les gamins. On les adore et puis voilà quoi.
Très bien. Alors, troisième invité ce matin, c'est Guy Tronel, le trésorier. Didier Tronel, pardon. C'est très important quand même, hein, la fonction de trésorier. Oh, c'est capital dans un club.
Oui, bonjour Philippe. Oui, c'est toujours difficile d'être trésorier dans une association sportive. Comme vous le savez, le tennis de table n'est pas non plus très rendu au niveau télévision, etc. Et aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de tenir nos budgets parce que malheureusement le sport ça devient aussi une partie financière et ça fait une dizaine d'années maintenant que j'encadre ce club au niveau financier et on essaye de tenir les résultats financiers. Nous essayons par beaucoup de moyens d'avoir aussi des sponsors, nous essayons d'avoir des subventions et avec tout ça on arrive bon an mal an à avoir des résultats qui tiennent un petit peu la route et d'avoir surtout pas beaucoup de pertes. Voilà.
Alors, Guy Hersemel, comment s'est effectuée cette rentrée pour votre club ? Au niveau des effectifs, des licenciés
Alors, au niveau des licenciés, aujourd'hui, on est, on est en léger retrait par rapport aux précédentes années, mais on atteint à peu près, on est approximativement à la centaine d'adhérents.
Quand même. Donc ça reste encore un sport important, le tennis de table
entre nous. Oui, je crois qu'on a toujours la chance d'avoir un entraîneur professionnel qui permet de travailler avec les écoles et de faire venir des jeunes. Donc aujourd'hui, la section est essentiellement, et je pense depuis des années, orientée sur le travail avec les jeunes. Et ce qui permet de les faire progresser et de les faire participer à des compétitions jusqu'à un âge où ils finissent par partir de Saint-Arnoult pour leurs études ou pour leur travail. Mais on a des jeunes, en gros, qui viennent de... Ça peut commencer à 5-6 ans, donc dès la dernière année de maternelle, jusqu'à 15, 16, voire 17 ans, et plus pour ceux qui restent dans la région de Saint-Arnoult.
Mmh. Et après, donc, la tranche d'âge, elle va jusqu'à quand ? Jusqu'à quel âge ?
La tranche d'âge, il y a des gens qui ont plus de 80 ans à la section, je pense. Ouais, et on a une pyramide des âges avec beaucoup de, je dirais, la majorité des adhérents, en gros la moitié qui a moins de 15 ans, et l'autre moitié qui va avoir plus de 30 ans. Donc, et jusqu'à 80, c'est André, je pense, le plus vieux, je sais pas. C'est toi ?
Ça prouve, excusez-moi, c'est Robert. Ça prouve que, en tout cas, c'est un sport qui conserve Robert.
Écoute, je sais pas, moi, je me sens très bien dans ma peau.
Oui, mais ça se voit. Et ça t'entend.
C'est vrai que, je joue plus beaucoup parce que j'ai eu des problèmes de hanche, donc j'ai un petit peu la trouille de reprendre la raquette, mais j'ai toujours apprécié ce sport. Et puis, surtout, ce qui comptait pour moi, c'était la convivialité qui règne au sein de la section. Ça c'est important parce que quand tu fais une semaine de travail, t'aimes bien venir un petit peu te défouler au-delà des résultats, de passer des bons moments avec les copains, quoi.
Alors combien d'équipes engagées en compétition à travers cette centaine de licenciés ? Ça se répartit comment ?
Alors on a des équipes de jeunes, là je passerai la parole à Guy. On a des équipes de jeunes, on a des équipes d'adultes. On a des jeunes qui font les championnats individuels. Oui. Dans très peu de temps, là, le 12 novembre, on va être l'organisateur du championnat vétéran départemental que le département nous a demandé d'organiser avec qualification pour les France. Donc c'est une grosse compète. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on l'a fait. Et au niveau des résultats, on suit toujours notre petit champion, Romain Lorenz, qu'on a vu encore la semaine dernière, qui est venu nous dire un petit bonjour à la salle, lors d'un tournoi qu'on organise toutes les veilles de vacances. Donc on voit toujours nos jeunes, quoi. Ouais.
Et donc des compétitions aussi, Masters, on en parlait il y a quelques semaines au niveau de la natation, dans votre sport c'est aussi fréquent ?
Oui, il y en a, mais là j'avoue que j'ai un petit peu... Ouais. Parce que le plus ancien, comme disait Guy, c'est moi. J'ai passé à la barrière bientôt des 80. Donc là, je suis plus trop au courant des masters et tout ça.
Alors Guy, donc ces jeunes qui font du tennis de table.
Oui.
Oui. Eh ben, comment ça se présente? Comment ça s'organise? Et est-ce qu'il reste sur ce sport?
Alors les jeunes, oui, bon, je pense qu'ils restent sur le sport quand ils ont quand ils sont allés jusqu'à 15-16 ans. Quand ils sont plus jeunes, on les voit beaucoup, naviguer entre les différents sports à l'USSA. Ça va passer d'un sport à l'autre, ça va faire plusieurs essais. Donc il y en a qui vont pas revenir, il y en a qui vont revenir, et ceux qui reviennent finalement vont rester beaucoup plus longtemps. Et après, ce qui se passe, c'est que quand ils font des études, ben ça risque de faire comme moi j'ai fait, en fait, c'est que j'ai repris un tout petit peu après mes études, mais finalement, étant loin du club, j'ai arrêté. Et puis avec les enfants, je suis revenu au tennis de table. Je pense qu'à Saint-Arnoult, c'est grâce au fait que mon fils a fait du tennis de table par les écoles. Je pense que sinon, je n'aurais pas repris le tennis de table.
Alors, les résultats sont bons aussi. Est-ce que votre vocation, c'est d'être un club formateur ou un club à résultat?
Alors ça, c'est une grosse discussion qu'on a en ce moment. Je pense que c'est très difficile d'être un club à résultat de haut niveau pour, je dirais, les juniors et les seniors jeunes. Par contre, on peut être un club formateur sur les très jeunes et à résultat avec les jeunes. Après, ce qui va se passer, c'est un peu ce qui s'est passé pour ce qu'on a vu pour Romain, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas la réponse et les joueurs qui permettent de faire progresser plus loin ces jeunes-là. Donc soit ils restent avec nous et ils vont faire autre chose que du tennis de table, soit ils vont partir dans d'autres clubs ou à des formations nationales quand ils sont repérés.
Oui, la logique est qu'ils partent, mais quelque part, en tant qu'éducateur, on est quand même content, satisfait. On a contribué à l'éclosion de ce champion.
Un éducateur sera toujours content d'un résultat, d'un bon résultat d'un jeune, et de le voir progresser dans le sport et de poursuivre dans le sport. Je pense que ça, pour un éducateur, c'est primordial.
Bon, Robert, vous partagez naturellement, vous qui avez connu tant et tant de pongistes.
Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant et ce qui fait plaisir, c'est que aussitôt qu'on a ces jeunes-là qui évoluent à un très haut niveau, comme Romain, quand il vient nous voir, quand on organise un tournoi quelconque, s'il a la possibilité d'être là, il vient, il voit les gamins, il fait son petit discours. Les gamins, ils sont tous les yeux grands ouverts pour voir ce petit champion, quoi. Donc ça fait toujours plaisir que ces jeunes-là ne nous laissent pas tomber et pensent à nous. Et on a toujours les parents qui viennent nous aider, alors que Romain n'est plus dans le club. Là, c'est un petit coucou à Patrick et à son épouse. À chaque manifestation qu'on organise, ses parents sont toujours présents. Donc quelque part, c'est une sorte de remerciement vis-à-vis du club.
C'est ça aussi le sport, c'est en faire aussi des êtres humains, des hommes, des individus, peut-être encore plus que les sportifs.
Tout à fait. Et puis on l'a vécu avec Gérard. Là, ça s'est pas encore produit avec notre nouveau entraîneur, mais avec Gérard, quand on travaillait avec les scolaires et que Romain était là, il venait faire de la relance sur les gamins qui avaient 7 ans, qui savaient à peine tenir une raquette. Alors quand on obtient ça d'un champion, c'est quand même très, très qualifiant, quoi.
Didier, vous êtes vous aussi sur la même longueur d'onde.
Oui, tout à fait. De toute façon, c'est vrai que toute l'équipe du tennis de table essaie toujours de faire une convivialité au niveau du tennis de table, d'avoir des jeunes sportifs aussi qui arrivent à passer des échelons. C'est le but aussi de l'entraîneur, d'amener nos jeunes, parce que bon, les plus vieux, malheureusement, sont plutôt en fin de carrière, mais aujourd'hui, on essaie d'apporter à nos jeunes un sport qu'ils aiment, une motivation pour qu'ils puissent progresser dans ce sport.
Alors, Robert, compétition individuelle, compétition par équipe, ça se passe comment? Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on peut jouer sur tous les tableaux?
En ce qui concerne les championnats individuels, non, parce que tu joues par catégorie, par catégorie d'âge. Donc tu débutes en poussin, en benjamin, minime, cadet, junior, senior. Tous ces championnats sont qualificatifs, soit au niveau départemental, régional, voire après national. Pour les championnats par équipe, c'est différent, parce que la plupart du temps, c'est des adultes qui jouent, parce que c'est le vendredi soir. Alors on peut le regretter, parce que je sais qu'en province, les championnats seniors ont lieu soit le dimanche matin, soit le samedi après-midi, dans certaines provinces. Et comme ça se passe le soir, et puis si on fait un déplacement, bon, je vais te dire n'importe quoi, à Sartrouville, on ne peut pas se permettre d'emmener un gamin, parce que ça le fait rentrer à 2h du matin, et là, les parents ne sont pas d'accord, bien sûr. Donc c'est deux championnats très différents.
Et on ne pourrait pas faire les deux quand même, participer aussi à des compétitions par équipe, en plus d'un calendrier individuel.
Ah si, si, bien sûr.
C'est possible.
Ah si, si, c'est possible. Ça, après, c'est à l'enfant de s'organiser, je parle des jeunes, hein. C'est à l'enfant de s'organiser avec ses parents et puis avec ses cours. Mais on a le droit de faire jouer un cadet en senior le vendredi soir, si ça pose pas de problème au niveau de l'école, et que les parents soient d'accord.
Alors, on va rappeler quand même toutes les catégories d'âge au niveau compétition dont vous êtes le plus fier. C'est laquelle catégorie qui marche le mieux actuellement au niveau des résultats?
Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Du temps de ma présidence, on a été longtemps le premier club féminin des Yvelines. Oui. On avait une équipe en 91, on avait une équipe en nationale 2. Féminine, qui est restée 3 ans à ce niveau. Après, bon, bah, forcément, les filles, comme disait Guy tout à l'heure, bah, elles prennent de l'âge, et puis soit les études, soit le mariage et la vie. Et au niveau des garçons, on avait de très bons résultats jusqu'à la catégorie junior. Donc après, bah, les études arrivant, c'est difficile de faire entraînement et jouer à haut niveau, quoi.
Et maintenant, donc, l'équipe féminine, on se rappelle, on en avait parlé il y a 3 ans, hein, on oui. était allé les voir, on les avait reçus ici, à ce micro. Bon, ça n'a pas pu continuer, l'entente avec voisins?
Malheureusement, non, parce que c'est la vie. Une de ces joueuses s'est mariée, a eu enfant, donc pendant sa maternité, forcément, on s'est retrouvé à 3 joueuses, et il faut absolument en avoir 4. Un classement déjà élevé, ce qu'on n'avait pas. Donc l'entente s'est terminée comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai que vous étiez sur le corridor, hein. Je me rappelle, on avait parlé, on avait dit, il faut surtout pas qu'il y ait une blessée.
Voilà, c'est ça. On n'avait pas une 5e joueuse pour compléter en cas de blessure, en cas de maternité. Donc l'entente s'est arrêtée comme ça, mais on est quand même monté en National 1, oui. ce qui est un beau résultat. Alors, pour ça, je voudrais faire aussi un petit coucou à notre ancien entraîneur, Gérard, parce que tous ces jeunes dont on parle, y compris Romain Lorenz, c'est Gérard qui les a formés et qui nous a permis par équipe d'arriver à ce niveau-là.
Il n'y a pas de regret quand même de ne pas avoir poursuivi l'aventure en National 1. Oh. Peut-être que ça se refera un jour.
Ah ben, j'espère bien que l'équipe qui prend la suite va œuvrer. Parce que les meilleurs moments que j'ai vécu, c'est dans les championnats par équipe, quand on emmène des jeunes un petit peu tout partout en France. C'est passionnant.
Guy, c'est parmi peut-être les ambitions de votre présidence de retrouver une équipe féminine, nationale 1.
Je pense que ce serait bien, mais avant, il faut former nos jeunes pour arriver au bon niveau. Et je pense qu'il va falloir commencer par ça. Et puis petit à petit, voir ce qu'on peut faire avec et faire en fonction de en fonction des équipes et des participants. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui s'est passé là pour cette équipe de filles, c'était une aventure, je vais dire, extraordinaire. Moi, je l'ai vécu plutôt de l'extérieur, puisque j'étais au bureau, mais pas président et pas trop participatif. De plus, j'aime bien jouer, pas trop regarder, donc j'ai un peu de mal à aller assister à des matchs, parce que je fatigue plus, en fait, que quand je joue. Mais sinon, c'est vraiment une belle aventure et quelque chose qui fait plaisir de revoir une des joueuses qui revient régulièrement dans nos activités. Comme je le disais Robert il y a quelques minutes, en fait, les jeunes qui sont montés à ce niveau-là, qu'on a accompagnés, ils reviennent régulièrement quand ils peuvent nous voir et voir les jeunes, et ça, je pense que c'est super important.
Alors, justement, vous parliez que vous préfériez souvent jouer que regarder, donc vous êtes un président de calme sur le bord quand les compétitions se déroulent, vous vous effacez, vous laissez les entraîneurs travailler à leur place correctement.
Exactement, je suis j'aime bien regarder, je suis assez discret, et c'est pour moi un exercice difficile de parler, et puis de voir le jeu, expliquer le jeu aux jeunes, c'est quelque chose qui est qui est très difficile. Et heureusement qu'on a des entraîneurs et qu'on a de nouveau un entraîneur jeune qui participe avec les jeunes joueurs.
Par rapport à Rambouillet, par rapport aux Essarts-le-Roi, qui sont des clubs avoisinants, comment vous vous situez? Les rapports sont bons? Vous êtes complémentaires? Vous êtes en concurrence?
Oui, je pense que les rapports sont très bons avec les autres clubs. On n'est pas réellement en concurrence avec un club comme Rambouillet parce que ils ont d'autres moyens que nous, ils jouent à un autre niveau. Mais après, sinon, oui, les rapports sont bons avec ces clubs-là et ça peut être bien pour certains jeunes d'évoluer vers ces clubs-là, si c'est possible, quand nous on peut pas fournir le niveau qui va bien.
Et des ententes en tennis de table, il y en a eu, est-ce que c'est pas l'avenir aussi?
Ah bah si, parce que je pense que avoir 4 joueurs ou 5, parce que 5 c'est plus sécurisant au même niveau, c'est quelque chose de très difficile dans nos régions, puisque il faut du monde, il faut 5 ou 6 joueurs qui jouent au même niveau, et ça c'est quand même assez difficile à obtenir. Donc les ententes, ça peut être quelque chose de bien pour notre section et l'autre section qui participerait.
Comment est le public, Didier, donc sur Saint-Arnoult, les gens qui viennent voir les matchs, il y a un gros public de supporters, des passionnés qui poussent derrière leurs équipes?
Bah bien sûr, souvent quand il y a des compétitions, il y a des parents qui viennent, il y a d'autres jeunes aussi sportifs qui ne font pas la compétition qui applaudissent et puis qui encouragent les jeunes qui font la compétition. Non, c'est important qu'il y ait un groupe derrière et qui puisse bien sûr aider nos compétiteurs à se motiver et à jouer davantage. Bien sûr que c'est primordial. Alors, ça n'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez fréquemment quand même.
Et pour une équipe adverse, alors, c'est difficile. On les siffle pas quand même.
Non. On est très sportif et on est fair play. Bien sûr qu'on a tendance un peu à applaudir nos joueurs à nous, mais on reste fair play au tennis de table, je crois, même dans toutes les salles de tennis de table, les gens sont assez fair play sur ce sport.
En tout cas, ça pousse, ça galvanise, hein. Autour de la table.
Tout à fait, oui. Alors moi, contrairement à Guy, moi, quand je regarde un match de mes jeunes, je suis complètement défoncé à la fin de l'après-midi.
Parce que... C'est le rôle des entraîneurs, souvent. Hein.
Oui, peut-être, je ne sais pas, mais parce qu'on le vit, on vit le match, on sait que le résultat est important parce qu'il y a un risque de descendre dans les catégories inférieures. Donc, moi, je suis crevé quand j'allais voir mes filles jouer en championnat de France.
Ça va, les pulsations cardiaques, quand même.
J'ai pas de problème de ce côté-là.
Très bien. Allez, on marque un petit break musical et un peu de pub. Et puis, on repart donc ensuite au tennis de table de Saint-Arnoult.
Faux semblant allongé. c'est l'hiver. En été.
Tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détail de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, vous n'oubliez pas hein, que cette émission, vous pourrez la réécouter dès cet après-midi en podcast. Et puis, nous sommes revenus, ne l'oublions pas une nouvelle fois, donc, à l'heure d'hiver. Robert, les créneaux d'entraînement, c'est 7 jours sur 7 sur Saint-Arnoult.
Oui, la salle est ouverte en permanence parce que bah, grâce à notre entraîneur qui est disponible tous les jours, on travaille toujours avec les écoles, donc ça veut dire qu'il y a certains après-midi ou certaines matinées qui sont occupées par les scolaires, ça c'est très bien parce que ça fait des années que ça dure, on espère que ça durera encore longtemps.
Oui, puis ça peut aussi susciter des vocations, hein.
Alors bah, c'est ce qu'on espère en faisant ce travail-là, à attirer les jeunes vers le tennis de table. Donc oui, on a une plage horaire assez conséquente, y compris le dimanche.
Ah oui.
Le dimanche, bon, les championnats c'est le samedi, mais le dimanche il y a un tournoi tous les dimanches matins. Et les après-midi, les jeunes peuvent venir s'entraîner s'il y a ouverture de la salle.
Donc il y a des tables pour tout le monde, pour les loisirs, pour les compétitions. Chacun trouve sa place, quoi.
Voilà, alors on a cet avantage d'avoir une salle spécifique, bon elle est à l'étage, mais on a une salle spécifique où on aligne 10 tables en permanence, donc on démonte pas nos tables, on les remonte pas, et quand on fait une grosse manifestation, on est capable d'aligner 40 tables dans le complexe sportif. Oui. Donc forcément on les met pas tous dans notre salle, mais on prend la grande salle omnisport en bas, voire les cours de tennis quand on organise notre tournoi du 1er mai. On est capable d'aligner 42 tables je crois.
Oui, alors justement, les installations sportives de Saint-Arnoult, Elles sont tout à fait correctes. Hein.
Elles sont tout à fait correctes.
Pour tous les sports, c'est vrai qu'il faut être honnête, il y a des villes et des villages qui n'ont pas ce que vous avez.
Ah, ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Donc, tous les trois, on connaît bien les clubs des alentours. C'est sûr qu'au niveau des installations, on est quand même privilégié. Et puis, je pense que dans quelques temps, on peut avoir espoir d'une construction nouvelle sur le complexe sportif grâce à la mairie. Donc, c'est aussi une possibilité encore plus grande qui nous est offerte pour occuper ce peut-être nouveau local.
Vous pourriez accueillir encore davantage de pratiquants. Le fait qu'il n'y ait peut-être pas d'icônes actuellement dans ce sport, même si on a eu l'occasion de croiser et d'interviewer Jean-Philippe Gassien à Lima pendant notre séjour là-bas, c'est un des avantages pour vous ?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, parce que plus on peut accueillir de jeunes, bah, plus on risque de sortir un champion. Hein, parce que si on embrasse 300 ou 400 gamins sur une saison, parce qu'avec le tournoi des écoles, tout ça, c'est à peu près la quantité de jeunes qu'on accueille. Et on multiplie les chances de pouvoir découvrir un futur petit champion.
Est-ce qu'il y a un archétype, un profil type du pongiste ou de la pongiste ? Est-ce qu'il faut être grand, longiligne
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si vous prenez Jean-Philippe Gassien, c'est pas quelqu'un qui fait 1m90, c'est pas quelqu'un qui fait 1m60, bien sûr, mais ça a été des grands champions. Il y a eu Secrétin, il y a eu Vincent Purcard. Maintenant, vous les regardez, ils sont aux alentours d'1m75, 70 kilos, quoi. Il n'y a pas de morphologie type du pongiste.
Bon, le palpiton, il bat hein, dans une séance d'entraînement. On perd beaucoup de poids au cours d'un entraînement ou d'un match. 2-3 kilos, non ?
Ah, alors, on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Lors d'un match de championnat au niveau national, dans les championnats individuels, il a été calculé sur Jacques Secrétin qu'un joueur de tennis de table parcourait devant la table l'équivalent d'un semi-marathon.
Ouais, c'est très intéressant, ces stats à chaque fois. Ouais.
Voilà, c'est les statistiques qui ont été prouvées, qui ont été... Donc, bon, forcément... Tout le monde, y compris moi, on n'est pas du niveau de Jacques Secrétin, on fait pas 22 kilomètres. Mais moi qui étais joueur de défense, je parcourais quand même pas mal de kilomètres devant la table.
Oui. Et les blessures les plus fréquentes, c'est quoi ? Des tendinites, des entorses ?
Alors j'ai eu cette chance moi de passer au travers, mais oui, on a quelques foulures, chevilles, tendinites, oui bien sûr, mais il faut faire surtout attention, c'est les chevilles et les genoux.
Et puis Guy, il y a quand même un aspect important dans le tennis de table, c'est le mental, c'est hyper important, ça peut faire basculer un match.
Ah bah, tout à fait, oui, pour les jeunes qui jouent, même pour les adultes, il y a des jours sans et des jours avec, et on peut avoir un jour un super mental, un autre jour un mental différent. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est de toute façon ne jamais laisser tomber avant la dernière balle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre très tôt et qu'il faut jouer jusqu'au bout.
C'est peut-être là le rôle d'un président de venir avec l'entraîneur parler à un joueur quand il doute comme ça.
Oui, probablement.
Par les bons mots, juste.
C'est un peu difficile d'être avec tout le monde. Donc forcément, on va accompagner plus une équipe, celle auquel on participe déjà. Et puis après, oui, avec l'entraîneur. Mais je pense que l'entraîneur, aujourd'hui, c'est son rôle premier. Et je prendrai conseil auprès de lui pour faire ce genre de choses. Parce que je pense que c'est du travail de... On est arrivé à du travail de professionnel. Il faut avoir les bons mots. Il faut connaître les jeunes d'un bout à l'autre. Et je pense que ça, c'est plus... C'est vraiment le travail de l'entraîneur. Moi, avec mon travail, je suis pas toujours présent. J'essaye de passer régulièrement, mais c'est relativement difficile. Donc je pense vraiment que l'entraîneur est la personne importante pour supporter les jeunes et pour les aider.
Oui, vous parlez beaucoup à vos joueurs et joueuses, hein, Robert, pour les remotiver, pour les regonfler, pour les remobiliser.
Oui, bien sûr, bah c'est le rôle de l'entraîneur. Et si l'entraîneur est pris par un joueur, on essaye d'être avec l'autre joueur qui joue à côté. Bon, c'est surtout au niveau des jeunes, c'est surtout des mots d'encouragement qu'il faut leur donner, parce qu'une fois qu'ils sont dans leur match, on peut leur dire beaucoup de choses. Ils mélangent tout. Il arrive un moment, ils mélangent tout. Donc c'est surtout des moments d'encouragement et puis de petits conseils. Et au niveau des adultes, bon, bah, ils sont suffisamment adultes, selon je veux dire, pour savoir s'organiser pour affronter un adversaire.
Bon, il n'y a pas de pétage de plomb quand même.
Ça arrive.
Ah oui.
Chez nous, c'est rarement. Ouais. Mais j'ai connu des joueurs dans des clubs adverses qui pétaient un petit peu les plombs. Mais c'est passager. C'est bon, bah, c'est sur le coup de la colère. Alors, bon, ils donnent un coup de pied dans une séparation, un truc comme ça, mais ça va jamais bien loin, quoi.
Bon, Didier, ça coûte combien le tennis de table pour ceux qui voudraient venir vous rejoindre après cette émission?
Alors, au niveau de notre section sportive, donc les cotisations varient entre 130 et 200 euros. Alors, il faut savoir, dans ce prix de cotisation, nous payons une licence à la fédération. Cette licence à la fédération, par exemple, sur les joueurs qui font nos compétitions, où là, la cotisation totale coûte donc 200 euros, la licence est à 44 euros. Donc vous voyez que si on retire 44 euros par rapport à 200 euros, la cotisation vraiment de jeu est aux environs de 150 euros. Donc aujourd'hui, malheureusement, le sport coûte cher partout. Il n'y a pas qu'au tennis de table. Je dirais malheureusement, en tant que financier, parfois, on parle plus d'argent que de sport. Et je trouve ça un petit peu dramatique. Et aujourd'hui, du fait que le tennis de table n'est pas très médiatisé, ben c'est vrai qu'on galère un petit peu pour les cotisations. Et c'est pas toujours facile, du fait aujourd'hui que nous avons la chance en plus d'avoir un entraîneur, donc ça coûte de l'argent à la section, et bah, on essaye toujours au mieux de faire tourner cette section au plan financier pour avoir un résultat proche de zéro, parce qu'aujourd'hui, bah, bien sûr, c'est important, mais encore une fois, je trouve ça dommage qu'on parle toujours d'argent à la place du sport.
Voilà. Et le matériel a beaucoup bougé, beaucoup évolué, les tables. D'abord, les balles, ça permet peut-être un jeu plus rapide.
Tout à fait, le matériel évolue pas mal, les tables également, puisque les surfaces des tables évoluent aussi, les balles aussi évoluent. Faut savoir aussi que les balles, les raquettes sont assez chères, donc automatiquement, pour avoir à peu près un matériel moyen au niveau d'une raquette, faut compter entre 80 et 150 euros.
Et on peut la garder toute la saison, ou alors il en faut 2-3?
Sincèrement, à haut niveau, je pense que les joueurs changent pas mal de raquettes, surtout des revêtements. Ouais. Et il faut savoir qu'un revêtement en moyenne peut coûter entre 60 et 80 euros ou 100 euros. Donc les grands joueurs en changent souvent. Bon, nous, à notre niveau, c'est moins important. Mais je sais quand même que le matériel qui est utilisé au tennis de table, bah, ma foi, évolue. Et puis, on essaye de faire avec son temps.
Voilà. Ça va combien une balle, Robert? À combien une balle au niveau vitesse?
Ah, au niveau de la vitesse.
À service.
Oh, alors ça, j'avais su ça, hein, mais je crois qu'on approche les 140 km/h. Les gens sont stupéfaits quand on dit ça, mais là aussi, c'est une étude qui a été faite sur deux grands joueurs, et la balle peut atteindre 140 km/h.
Mmh. Est-ce que vous avez une tenue stricte réglementaire en compétition?
Alors, au niveau départemental, ça devrait être, parce que bon, c'est un sport. Au niveau un petit peu plus élevé, là, évidemment, vous devez avoir tous les joueurs dans la même tenue. Vous ne devez pas avoir certaines publicités qui prennent tout le maillot. Ouais. Et c'est très réglementé au niveau championnat de France. Là, il y a aucun cadeau là-dessus si vous n'êtes pas en tenue sportive.
Du club, c'est-à-dire du club, le club, aux couleurs du club, quoi.
Aux couleurs du club ou de la fédération que tu représentes, quoi. Mm-hmm. Si tu joues en équipe de France, tu dois avoir la tenue de l'équipe de France. D'accord. Il y a ça là-dessus, il n'y a pas de cadeau. Hein. Mm-hmm.
Et au niveau de l'arbitrage, ça se passe comment, d'une façon générale? Il y a peu de contestations.
Alors, au niveau départemental, au niveau régional, il commence à y avoir des petites contestations.
Il n'y a pas la vidéo là encore.
Non, pas encore. Mais au niveau régional, tu commences à avoir des juges arbitres dans la salle, ce qui est très bien. Malheureusement, au niveau de la formation des arbitres, c'est un petit peu comme tout, c'est du bénévolat. Et bah, on en a de moins en moins. Nous, on a la chance chez nous d'avoir trois juges arbitres. Donc ça suffit amplement. Mais je sais que dans certains clubs, il y a une pénurie d'arbitres parce que bah, les bénévoles le font de moins en moins, quoi.
Et alors, quand on change de raquette, on parlait qu'il fallait plusieurs raquettes, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté fétichiste quand même aussi? Parce qu'il y a une raquette qui a mieux réussi dans une compétition, alors bon, bah, on veut garder celle-là, quoi.
Oui, je pense, Philippe, en effet, que vous avez raison de dire que les joueurs s'attachent bien sûr à leur matériel propre. Hein. Très souvent, ils ne changent pas de raquette, ou enfin, c'est leur même raquette, mais encore une fois, ils changent de revêtement, mais ils gardent le même bois, ils s'attachent à avoir leur propre équipement, et de ne pas prendre la raquette du voisin. Ouais. Aussi, je pense que dans ce sport, ils s'attachent assez à leur matériel quand même.
Mm-hmm. Alors moi, j'ai une anecdote sur une raquette. Un gamin qui n'arrivait pas à jouer avec la raquette qu'il avait, qui est venu voir l'entraîneur. L'entraîneur me l'a envoyé. J'y ai donc donné une raquette du club. Et le gamin est revenu 3 minutes après en me disant « Je peux pas jouer, Fufu, avec ta raquette parce que je transpire avec. » Bon, voilà, c'est des anecdotes d'un gamin qui trouvait qu'il n'arrivait pas à jouer parce que la raquette le faisait transpirer.
Guy ?
Par rapport au matériel ? Ouais. Bah, par rapport au matériel, oui, je pense que le matériel, il faut l'entretenir, il faut le garder. Les raquettes ont un certain coût, sont la charge des joueurs, donc c'est un coût en plus de l'inscription. Après les tenues, de toute façon, je pense que faire du sport avec un survêtement ou des choses comme ça, c'est juste pas possible, quoi.
Oui. Mais on pourrait avoir un t-shirt complètement fluo, quoi.
Oui, on pourrait, mais bon, c'est bien d'avoir la tenue du club et de faire partie de l'équipe, quoi. C'est important d'avoir une équipe et d'avoir un véritable esprit d'équipe.
Alors, un des soucis qui est le vôtre, hein, en tant que président, c'est de fédérer un groupe, c'est de fédérer un club, c'est de fédérer un collectif. Et pour cela, vous organisez beaucoup d'activités, et pas seulement que sportives.
Alors oui, il y a plusieurs activités qui sont organisées pour la section. Il y a effectivement les activités sportives, on en a un petit peu parlé. Il y a des activités, je dirais, de vulgarisation, je vais dire ça comme ça, qui sont des tournois qu'on organise les samedis après-midi avant toutes les vacances scolaires. Donc tout le monde est invité, on essaye de faire de la publicité, c'est ouvert à tout le monde, les formules sont différentes pour chaque tournoi, et on a la chance d'avoir une participation. Donc là, samedi dernier, il y avait une cinquantaine de personnes, voire 60. On arrive à accueillir ce nombre de personnes et à les faire jouer, à faire connaître la section plus loin que les joueurs, je dirais. Donc ça c'est bien. Après, on a des heures d'ouverture aussi qui permettent aux gens de venir jouer, je dirais, à tout instant, mais il y a des instants encadrés, il y a des instants non encadrés, il y a des tournois, je dirais le dimanche matin par exemple, c'est un tournoi amical, ouais, je vais dire amical. Donc ça, c'est, je pense que c'est un truc important. Et après, on a des activités qui sont, comme le disait le trésorier, c'est des activités qui vont nous permettre un peu de financer la section. Donc là, c'est, on va essayer d'organiser un loto, on organise des rencontres sportives, on fait payer quelques activités, etc.
L'arbre de Noël peut-être aussi, non?
Non, c'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé, mais les activités qu'on fait pour le département, par exemple, donc on prête notre salle, on accueille des compétitions pour le département. On a la chance, comme disait Robert, d'avoir un juge-arbitre qui participe beaucoup. Donc je pense que lui, il a vraiment fait pour la sélection aussi, et pour il a vraiment fait beaucoup, et il en fait toujours beaucoup. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je dirais d'autre pour l'instant? Rien ne me vient à l'esprit pour l'instant. Si ça revient, je le dirais.
Peut-être une grande fête aussi annuelle de fin de saison après une assemblée générale.
Oui, on a. Alors, après l'assemblée générale, il y a toujours un petit peu de l'amitié, mais on organise aussi un tournoi, je dirais, ce qu'on appelle le tournoi du club, où là, c'est festif, où on commence le matin à jouer, le midi, on a un petit repas apéritif, et puis l'après-midi, on joue encore un peu si on y arrive. Vraiment, notre grosse organisation, le truc important et qui vit depuis des années, c'est le tournoi du 1er mai, qui s'appelle toujours le tournoi du 1er mai, même quand On le fait pas le 1er mai, ce qui est arrivé très très rarement.
Oui, alors justement, Robert, ça c'est vraiment le rendez-vous, j'allais dire, fort de l'année pour votre section. On en parle pratiquement tous les ans sur notre antenne.
C'est ça. Alors, on a un gros avantage, et c'est pour ça qu'on avait choisi le 1er mai, c'est que toutes les installations sportives sont fermées en général ce jour-là, puisque c'est férié. Et on n'a pas de grosse concurrence pour notre tournoi, ce qui fait qu'on on arrive à prendre des joueurs qui viennent aussi bien des Hauts-de-Seine, qui viennent de l'Essonne, qui viennent enfin de toute l'île de France. Et peut-être on se dirige, là il faudra qu'on approfondisse un peu la chose, mais on serait en train de se diriger vers un tournoi au niveau national. Donc c'est peut-être un scoop, il faudra en parler, mais je sais qu'on en parle au sein du bureau, et parce qu'on voudrait s'étendre au niveau, dépasser le régional. Donc le tournoi du 1er mai, il a dû voir le jour en 85, 86, quelque chose comme ça.
Ouais, ouais. Et puis, il y a quand même une obligation, c'est venir avec un brin de muguet. Hein.
Ah bah, pour certains, bien sûr, parce que comme on a beaucoup de femmes bénévoles qui tiennent la buvette, qui font les casse-croûtes, qui font... Alors, bien sûr que c'est fortement apprécié.
Ouais, ouais. Alors, ça, c'est le temps fort de votre saison, mais il y a d'autres, notamment, tournois organisés tout au long de l'année.
Ah bah, comme le disait Guy, il y a les tournois avant chaque période de vacances. On a aussi le tournoi des écoles, notre tournoi de fin d'année, comme Guy disait, où on récupère à peu près tous les joueurs de la section. On souhaite toujours le soleil parce que c'est une journée formidable. On casse la croûte dehors, barbecue, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment très amical.
Et est-ce qu'un jour, un tournoi exhibition, comme on a connu il y a très longtemps, avec Jacques Secrétin qui était venu sur Saint-Arnoux, est peut-être envisageable?
Alors, avec les nouveaux joueurs, moi, je les connais de nom comme ça, mais à l'époque, il y avait Secrétin Purcard. Tout le monde a entendu parler du show Secrétin Purcard. Donc, Purcard était une vieille connaissance. On s'était connu très, très jeune. Malheureusement, il est décédé. Et je ne sais pas si ce genre de show continue à avoir lieu.
Avec Sheila, il était venu sur Rambouillet.
Voilà, il y a Sheila qui l'a fait une fois. Il y a Patrick Renversé qui avait pris un petit peu la suite. Mais actuellement, j'ai pas connaissance que ça ait continué, ce genre de spectacle, parce que c'est un spectacle. Sur Saint-Arnoux, on l'a organisé trois fois. Une fois, je n'étais pas encore à la section, et personnellement, je l'ai organisé deux fois, avec la section de tennis de table, bien sûr, et on l'a organisé deux fois au cratère.
Et puis des calendriers aussi peut-être de plus en plus chargés, comme dans tous les sports, ce qui explique que ce soit plus difficile aujourd'hui pour un pongiste de venir.
Oui, il y a ça, forcément, de trouver la bonne date où vous êtes à peu près sûr de remplir la salle, parce que c'est des spectacles qui sont pas gratuits, et les dernières années, ça commençait vraiment à coûter un peu cher pour le nombre de personnes qu'on accueillait.
Très bien. Didier, vous allez lancer la pub là, hein?
Oui, écoutez Philippe, avec plaisir. Et bien maintenant, voilà, c'est la pub. Et à bientôt.
La CIM verte et la Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La CIM verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La CIM verte, votre professionnel de l'élagage, 71 bis, rue de la Grange-Colombe, à Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimverte.com.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Je toute une bougie. Bah, je dis bougie. C'est pas un gros mot, bougie. Bougie.
Qui est des Yvelines, qui est organisé à Saint-Arnoult. Donc les premières inscriptions sont à 8h30 et ça dure toute la journée. Donc tout le monde peut venir assister au tournoi. Après, fin janvier, donc le 23 janvier, si je me souviens bien, on organise un loto. 27 janvier. On organise un loto pour essayer de financer notre club. Et donc, on va avoir un total de 3 500 € de lot, à peu près, qui se répartissent en un certain nombre de bons d'achat. Et donc, dont le premier lot serait un bon d'achat de 800 € et quelques cadeaux, quelques lots, je dirais, dont un téléviseur et un ordinateur portable.
D'accord. Et puis auparavant, Robert, vous reviendrez à la fin du mois de novembre pour nous parler du Téléthon, parce que, bien naturellement, là aussi, Saint-Arnoult investit sur le Téléthon 2017.
Oui, bien sûr. Il y a une équipe qui fonctionne sur le Téléthon sur Saint-Arnoult. Je sais, parce que je fais partie de cette commission, il y aura deux randos d'organiser, une rando jeune le samedi après-midi et une rando adulte le soir pour... Ils partent du parc Arsenault et retour sur le stade.
D'accord.
Alors on est en train de finaliser toutes les... Je sais aussi qu'il y aura un pétage de ballons, comme ils appellent ça. Donc les ballons sont fournis par la FM. Et puis, bon, enfin, il est, je pense, faire claquer tous les ballons en même temps.
Voilà. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler hein, voilà, dans cette émission spéciale Téléthon. Merci, messieurs, en tout cas, d'être venus parler tennis de table et au pied levé hein, d'avoir remplacé Jean-Michel Richefort. Bonne suite, bonne saison. Hein. Et puis, écoutez, l'antenne d'Hervé, elle vous est ouverte quand vous le voulez. Voilà.
Merci,
Philippe. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tiens, ça sera Tribune Foot, 10h, 11h. Tribune Sport, ça revient dans 15 jours. Restez-nous fidèles tout au long de la semaine sur l'antenne d'Hervé. Bon dimanche à toutes et à tous. N'oubliez pas, nous sommes revenus à l'heure d'hiver. Salut.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.